Et bonjour tout le monde, on est re-bienvenue à un autre épisode de Bon en salle. Bon en salle, le podcast en partenariat avec le Théâtre des Esquerres, qui est une présentation de Onibi, parce qu'Onibi, c'est...
Bon en salle!
Toujours aussi mauvais comme jeu de mots, c'est écœurant.
Top notch, messieurs, bravo.
Top notch. Je suis joint par mes acolytes habituels, monsieur Pierre-Anthony Breton. Salut, PA.
Salut, ça va bien?
Ça va très bien, toi?
Ça va super bien.
Cool. Benoît?
Hello!
Toi, je te demande pas comment ça va,
non,
je te demande ça.
C'est bien correct.
Et on est joint ce soir avec monsieur Charles Beauchesne qui vient présenter son spectacle. Charles Beauchesne et Jack l'Éventreur, je l'ai bien dit.
Charles Beauchesne parle de Jack l'Éventreur pendant 60 minutes. Les gens sont curieux du concept, c'est que je me suis dit, j'allais tout expliquer dans le titre du spectacle. Et même là, vous seriez surpris à quel point les gens me posent des questions.
Quel genre de questions? C'est qui Jack l'Éventreur?
C'est quoi le spectacle? Là? Parle Beauchesne, parle de Jack l'Éventreur pendant 60 minutes. Ouais, mais c'est comme une espèce de joke, là, puis tu vas genre faire du stand-up de camping. Non, non, je parle de Jack l'Éventreur pendant 60 minutes. C'est une conférence que l'on barre les portes.
Personne ne peut se sauver.
Non. Vous n'êtes jamais avec moi pendant une heure et demie. Ah ouais, même le titre est un mensonge.
On va parler de ton autre passion, Warhammer.
Passion récente, soit dit.
Ah oui, ouais, ouais. J'ai...
Ah, vous voulez qu'on parle de ça, là?
Ben, on peut, on peut.
Mon Dieu, j'ai un chum qui... OK, on est right dans la caisse, on va parler de Warhammer 40 000.
Ben ouais,
les
pas?
Amis, ça va être hermétique comme jamais. j'ai un ami qui a recommencé à jouer à ça, qui était un joueur comme tout le monde, là, quand on était adolescent, là, puis qui a recommencé ça... comme tout le monde, fin trentaine. Puis il m'a... j'allais chez lui, puis il montrait ses petits bonhommes qui peignaient. Je me suis dit, oh mon Dieu, crème, ça a l'air donc mal fun, ce hobby-là. Puis je connais les bonhommes, je connais grosso modo l'histoire en arrière de tout ça. Hein, c'est bien le fun, mon Dieu. Puis les petites techniques de peinture, mon Dieu, ça a l'air si relaxant de passer des après-midi à mettre de la couleur sur des squelettes robots égyptiens. Là. C'est pile mon genre de passe-temps. Fait qu'une chose en a mené à une autre. Là, en décembre dernier, je me suis dit, d'accord, je vais me mettre au hobby. Je vais aller sur gamesworkshop.com, me commander toutes mes patentes à gosses. Puis, Colin, c'est hermétique comme hobby. Ils veulent... faut vouloir faire des Warhammer dans la vie.
Ah ouais? Après, ouais, c'est compliqué?
C'est
cher en partant aussi.
C'est mais... cher, c'est plein de... C'est tellement d'étapes. C'est probablement si tu veux jouer au jeu, toutes sortes de façons de jouer à cette affaire-là. Tu peux genre lire les livres et apprendre à jouer genre, la partie parce que tous tes bonhommes sont des petits pions dans une game de guerre en temps réel, entre guillemets, contre deux nerds qui mangent des Cheetos. Et fait que tu peux utiliser tous tes bonhommes peints pendant des heures comme des pions, mais pour ça, il faut que tu apprennes 45 milliards de pages de règles qui, pour moi, sont un cauchemar parce que je suis pourri en mathématiques. Et tout ça, comme Donjons et Dragons, mon autre passe-temps favori, ce sont des maths déguisées.
Mais oui. Comment on pourrait faire apprendre aux jeunes à compter?
Faites-leur des dés puis des modifiers. Quand tu as le cerveau pour comprendre ces règles-là, là, quand tu as un cerveau de gars de Donjons et Dragons, tout ça, là, c'est du pareil au même. J'ai vois le lire des codex comme... Ah ouais, OK, d'accord, c'est beau, j'ai compris. Grosso modo, c'est cette affaire-là, là, puis on applique les règles de ces autres gars-là. Puis je... Ah ouais, vous êtes capables, vous autres? Fait que ça, c'est si tu veux jouer au jeu. Puis là, même si, comme moi, là, t'en as rien à foutre, puis tu veux juste peindre des bonhommes, là, faut que tu te commandes des figurines en ligne. Faut que tu te commandes de la peinture en ligne. Faut que tu te commandes l'espèce de petit outil Games Workshop à 60$ pour enlever les marques de moule sur tes petites figurines en plastique. Faut que tu te pognes des exactos, du diluant à peinture. Faut que tu primes tes modèles. Là. Puis j'ai une étape à laquelle je suis pas de garage chez nous. Moi, je suis un sixième
T'as-tu
étage.
T'as-tu ton permis de construction? Parce que là, ça ressemble à ça.
Je suis même pas manuel. Je suis malheureusement le gars le plus cérébral que vous avez en ville. Ça fait que je peux rien faire avec mes mains. Quelqu'un essaie de me montrer utiliser une drill à un moment donné. C'était-tu beau, ça? Un gars du Saguenay, en plus, mon Dieu, qui était fin. Mon Dieu, qui a voulu m'expliquer. Bref, c'est ça. Fait que là, il faut que tu t'achètes 14 milliards de patentes. Et même si tu as toutes ces affaires-là pour faire tes bonhommes, sache que tu peux toutes les moffer de façon irrémédiable à toutes les étapes. Là, t'apprends, là, en passant 4 heures là, sur un bonhomme là, de l'agro à peindre, là, des pupilles là, sur des yeux de squelette égyptien là, pour finalement te rendre compte que t'as pas... Comme de la peinture à numéro, c'est des couches, là, fait que t'as pas fait la bonne couche au bon moment ou t'as essayé de faire genre un effet de peinture genre au mauvais moment dans l'entreprise. Puis là, t'as chié ton modèle et recommencé ça à l'infini. C'est ce qu'on appelle un hobby.
Ça a l'air de la rage de cacher.
Mais mais je, la rage quand j'en parle, mais la vérité, c'est que pour, comme pour toutes les affaires qui sont chiantes dans la vie, ça, ça te met dans un état méditatif de le faire, de « Ah ouais, OK, là, il faut que je gosse là, toutes mes petites bouts de sprue qui sont restées pognées sur le modèle. » Ça devient « Faut que j'organise tous mes petits pinceaux, que je mette toute ma... » Il y a quelque chose de très, très zen, un peu comme une espèce de... Je vais faire un parallèle avec une cérémonie du thé japonaise, là, où genre toutes les étapes sont essentielles. Il faut que tu brosses ta petite tasse avec ton petit blaireau et ton petit matcha. Puis c'est... Et ça, ça devient méditatif. Ça, l'objectif, c'est de penser à rien à part le moment présent, à part la pupille d'œil de squelette robot égyptien qu'il faut que tu fasses. Et ça, c'est mon Dieu, c'est merveilleux pour moi.
T'es-tu un gars de jeux vidéo? Parce que je pense qu'en développement, il y en a un jeu de Warhammer 40 000.
Avec 40 000, justement, ouais. Jeux de Warhammer 40 000. Je suis un gars... J'aime les jeux vidéo. Je suis pas bon. Et j'ai moins de temps que ouais. J'aimerais pour y jouer. Fait que moi, ça me prend des jeux faciles d'accès. Que je vais jouer très, très longtemps à la même affaire. Je suis un complétionniste, en plus. Donc, tout soit fini à 100% parce que sinon... Des fois, j'ai peur de ne pas utiliser mon matériel. Hein. Je ne vais pas utiliser mes jeux. « Hey, man, ce jeu-là n'a pas été joué au complet. » Il est comme... Qu'est-ce que ça va lui faire au jeu? Moi, j'ai comme de l'empathie pour...
Il y a un développeur qui braille à quelque part.
Je vais jouer à son jeu au complet. Je vais essayer toutes les possibilités là, dans son jeu. Il faut... Là, je fais de l'angoisse. Il faut que je finisse le jeu. Mais je travaille à travers tout ça. J'aimerais vous rappeler qu'une des affaires, c'est que je n'ai pas le temps de jouer à des jeux vidéo. Fait que je joue souvent là, un jeu par année, à peu près. Là, je...
Okay. C'est quoi ton dernier jeu?
Breath of the Wild.
Ah ouais,
avec
même.
7 ans de retard.
Ah ouais, ouais.
Et là, tu vois, là, j'ai l'autre. Là, j'ai le Tears of the Kingdom là, qui est dans une pile. Là, je vais le commencer éventuellement. Sauf qu'avant, il faut que je joue à... Là, mon prochain sur la liste, c'est... Ah, c'est quoi son nom, man? Le jeu... Le nouveau Dark Souls, super difficile. Elden Ring. Ouais. Oh, le jeu le plus difficile du monde! Puis là, c'est ça. Là, c'est le bout où le complétionniste en moi va peut-être se calmer le cul un petit peu parce que ça se peut que j'arrive jamais...
Ben, avec Elden Ring, Tears of the Kingdom, t'es 7 ans. Ouais,
ouais, c'est ça.
Tu me le dis, là, puis j'angoisse. Je serais peut-être pas capable de finir Elden Ring et j'en fais là, des sueurs froides la nuit.
Un cauchemar la nuit. Non!
Non, je l'ai pas fini. Je l'ai pas terminé. Puis, mais en même temps, pour un jeu comme aussi difficile, c'est hermétique, hein? Pour un jeu aussi difficile que Elden Ring, moi, je joue avec beaucoup de retard quand même. Moi, ça ne me dérange pas là, d'aller sur Internet, là, aller checker. Là, c'est quoi là, la recette là, pour avoir cette finale-là, là, point par point? Vous me dirigez là, comme une espèce de labyrinthe de girafe à numéros sur un apron. Là, où est-ce qu'il faut que je me... Ouais, exactement. Je vais faire toutes les étapes. Je vais finir le jeu de la manière psychorigide que je me suis dit que j'allais le finir. Et ça devrait aller. Mais je walk through des fois. Là, je perds pas 2 secondes à me faire chier avec un jeu vidéo. Là. C'est fini, cette époque-là.
Ben non, c'est ça. C'est, surtout que ton podcast, il y a de la recherche, hein. Chris qui est imposé. Fait que c'est juste ça. Mm. Si tu mélanges jeux vidéo, les recherches, la tournée, ça commence à être du stock. Là.
En plus, il faut que je fasse des pires moments de l'histoire. Et je suis un complétionniste et je suis perfectionniste. Et c'est le même... C'est un petit peu le même enfer avec le podcast. Parce que tu vois, je fais des... Les pires moments de l'histoire, où je raconte les pires moments de l'histoire, c'est de la narration, c'est du... Je prends des faits historiques, puis je les raconte, en tout cas, de la façon la plus narrativement plaisante à mes oreilles. Sauf que moi, ça m'arrive souvent, quand je fais ma recherche, de... Premièrement, d'accumuler beaucoup trop de recherches. C'est 30 pages de recherche par épisode en point form, généralement, que j'essaie d'organiser là, du mieux que je peux en ordre chronologique narratif. Mais souvent, ça fait que je fais du « fear of missing out » historique.
un faux mot historique.
Oui, c'est un mot faux.
Bon, oui, je vois là, des affaires passer. Ah ouais, ça, il faut que je parle de ça. Ouh, ça, il faut, c'est ça, il faut parler de cette affaire-là. Puis là, je me ramasse et que des épisodes qui duraient 1h30 en moyenne, et c'est pour ça qu'il y a 2 personnes avec qui je travaille, on se triangularise comme jamais. Eux autres, ils lisent mes affaires par la suite, puis ils sont... t'as pas besoin de parler de ça, t'as pas besoin de parler de ça, t'as pas. Puis là, moi, après ça, j'ai le syndrome du curateur du musée. Je suis comme, non, 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 mais cette affaire-là, voyons, les gens vont vouloir entendre parler de ce vase. cette poterie égyptienne fascinante. Non, non, les gens n'ont pas besoin de ça, curateur. Et c'est ce processus-là, mon Dieu, depuis 6 ans déjà.
Ouais, mais comment tu. Tu sais, c'est devenu très populaire quand même assez rapidement. Comment tu vis, tu sais, comment tu vois ça un peu, là, ton.
Je vais être. Je te corrige, c'est devenu très populaire accidentellement.
Accidentellement.
Rapidement et accidentellement. C'est pas une vraie correction, là, mais dans le sens que. Moi, à un moment donné, tu sais, Moi, je suis finissant de l'École nationale de l'humour 2010, comme on jasait dans le parking devant une bonne clope tout à l'heure. Moi, j'ai eu. Entre 2010 et 2019, la sortie de la première saison des Pires Moments, j'ai eu une décennie d'être. Un bon vieil humoriste de la relève, un peu plouc, qui fait 3 heures de route pour 15 minutes à Québec, payé 80$ quand on est chanceux. Fait que c'est des années très infernales, je te dirais. Ça n'a pas été. C'est le fun parce que j'ai la passion, puis j'aime le craft, j'aime le métier, j'aime faire de l'humour. Mais mon Dieu, ça a été une décennie là, de 50% du temps, les gens trippent. 50% du temps, les gens me détestent et c'est ça d'un show à l'autre et tout ça pour en arriver à la fin d'une décennie où je suis comme, OK, d'accord, manifestement, les gens m'adorent ou me détestent.
Il n'y a pas d'entre-deux, c'est très...
Il n'y a pas d'entre-deux, c'est noir et... Il n'y a personne qui est juste correct à mon égard.
Il était comment, Charles Deschamps?
Veux-tu appeler Charles Deschamps? Ça, c'est drôle, ça, c'est vraiment drôle, ça.
Pas de te mélanger avec Charles Deschamps. Il ressemble même pas.
Beauchamp et Deschamps, Beauchamp et Deschamps.
Ça fait 10 ans qu'on nous mélange, que je reçois des emails qui lui sont attribués. Peux-tu devenir de relais, comme vous voulez, Charles Deschamps, j'imagine.
Puis tu sais, t'as lancé aussi le gong show, d'ailleurs.
Oui, j'étais là-dessus, oui.
D'ailleurs, comment ça s'était venu l'idée, tu sais, du gong show?
Le lancer, oui, je suis avec mon bon vieux chum Anthony Rémillard. On avait envie là, de bien molester de la relève. Je vous aime, les garçons, je vous aime.
Faut que tu parles, tu parlais de la gelée, t'es-tu quelque chose que t'aurais fait si ça aurait existé dans ton temps, le gong show? L'amour
quand t'as commencé,
que t'avais avec les spectacles, t'aurais-tu le guts de te mettre sur scène à ce niveau-là?
Oui, mais je pense, et rien contre vous les garçons, je pense que je me serais fait mal au gong show. Fait que je pense que je l'aurais fait, mais que je me serais fait mal. C'est ça que j'ai fait pendant 10 ans. Je l'ai fait en me faisant mal. Puis là, c'est ça. Ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, quand tu réalises que genre, les gens t'adorent ou te détestent, c'est « Ah, OK, dans ce cas-là, je peux faire ce que je veux. Je peux être aussi fucké que ça me tente de l'être. Il y a du monde qui vont aimer ça, puis ceux qui aiment ça, ils aiment ça. Fait qu'il n'y a rien à faire pour eux autres. » OK, d'accord. Fait qu'à un moment donné, j'étais en deux spectacles de stand-up, puis je suis tombé sur un documentaire sur la peste noire sur YouTube. 2 documentaires, d'ailleurs, back-à-back, que je me suis tapé. Je suis comme « Mon Dieu! » C'est donc bien intéressant, cette affaire-là. Il y a une apocalypse zombie au Moyen-Âge avec des cultistes en cagoule qui se fouettent le dos, puis du monde avec des grosses faces de pustules. C'est tout ce que j'aime du Moyen-Âge. Synthétisé là, en 2,45 minutes de documentaire. Je suis comme, tout le monde a entendu parler de la peste noire. Personne ne peut me raconter cette histoire-là. Moi-même, j'apprends cette histoire-là en écoutant 2 documentaires. Peut-être que je pourrais faire un spectacle où je fais juste partager mon appréciation de l'absurdité de cette situation-là, d'ailleurs, dans laquelle il y a des jokes et des parallèles à faire à l'infini avec le monde dans lequel on vit. D'ailleurs, c'est dans un monde pré-COVID. J'ai apprécié cette ironie-là beaucoup plus tard, hein, ce show-là, après 2020. Fait que c'est ça. En 2014, j'ai sorti Charles Beauchesne parle de la peste noire pendant 60 minutes, qui est le proto-pire moment de l'histoire.
Après, sous forme de podcast ou...
Non, c'était...
En spectacle.
En spectacle. Comme je vais faire ce soir, en fait, avec Jack Léventreur, c'est une... Moi, j'ai à un moment donné, dans le film Hannibal de Ridley Scott, Hannibal Lecter, il est en Europe, là, puis il fait genre des conférences avec des diapos sur genre Judas Iscariote représenté pendu sur des boîtes en ivoire, en gold. Oh mon Dieu, mais il est bien cool. Rien de plus hot. Mon héros, c'était Anthony Hopkins qui joue Hannibal Lecter, qui fait une conférence sur Judas Iscariote pendu sur des boîtes en ivoire de Gaulle. Puis j'ai fait, hey man, OK, c'est ça que je veux faire. Je veux faire une conférence universitaire pour tout le monde, avec des diapos, avec des cue cards, avec toute de l'information que je ne suis pas obligé d'apprendre, puis je ne suis pas obligé de me stresser le cul là, comme en stand-up, là, tout apprendre à virgule près parce que je suis un complétionniste perfectionniste, puis mes affaires, il faut que je les apprenne à la virgule près pour avoir du plaisir.
Ta toujours... vie, c'est une souffrance.
Se faire chier pour une goutte de plaisir. mon petit verre en dessous.
Le titre de mon prochain porno, ça.
Nice. Fait que c'est ça. J'ai sorti Charles Beauchesne, Père de la peste noire pendant 60 minutes. Succès surprise. J'ai eu 9 supplémentaires. Puis voilà. Après ça, j'ai continué à faire une couple de shows de stand-up. Puis à un moment donné, en circa 2018-2019, j'ai fait comme « Hey, Jack l'éventreur, même affaire. Quelle histoire fascinante. Pourquoi personne connaît les subtilités de cette affaire-là? C'est juste qu'il y a un tueur en série. » Puis même là, j'ai dit « Ah, OK. » Je vais refaire une conférence sur cette affaire-là. Ça a donné naissance à Charles Beauchesne parle de Jack l'éventreur pendant 60 minutes. Mm-hmm. Puis là, à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que j'avais des conversations avec les boys du stand-up quand on était backstage, là, puis tout le monde est toujours en train de se comparer où ils sont rendus dans leur carrière pour essayer de se faire sous-jacemment chier. Et à un moment donné, c'est Mathieu Pepper, je pense, qui m'a dit « Crime Charles, je veux dire, ton show, là, ça a peste noire, puis Jack l'éventreur, genre, t'as pas pensé à faire... Hein? » du web avec cette affaire-là. C'était l'époque des séries web. À ce moment-là, on n'était pas, le podcast n'était pas encore aussi populaire qu'aujourd'hui. J'ai dit, oui, OK, ouais, c'est une bonne idée, ça, Pepper. Effectivement, je pourrais prendre toutes sortes de petits sujets comme ça puis genre les mettre en faire des petites web-séries d'une dizaine de minutes. À l'époque, j'étais si fou. J'étais naïf. J'ai 10 minutes, puis c'est réglé. Puis plus de présence sur le web.
Ouais.
Mon public s'en vient vieillissant parce que moi, les gens m'ont découvert genre dans les gens qui m'ont découvert dans des affaires comme, tu sais, en route vers mon premier gala en 2011. Puis là, je suis comme, ah, OK, mon public ne me voit pas souvent faire des affaires. Peut-être qu'il faut que je fasse quelque chose sur Internet. Les gens ont eu l'air d'apprécier les conférences historiques. Je pourrais faire une série web sur cette affaire-là. J'ai rassemblé mes amis Audrey Rousseau et François de Grandpré, qui sont des auteurs avec qui je travaille depuis 10 ans, on se connaît à l'endroit puis à l'envers. C'est le fun de travailler avec ces gens-là. François Le Grand Prix, on a fait l'école de l'humour ensemble. Il repasse mes textes depuis 10 ans. Ah oui, OK, d'accord. Ces gens-là ont fait une série web narrative historique. On est allé pitcher ça à Urbania avec notre pitch. C'était Vlad l'Empaleur, presque comme il est aujourd'hui dans le podcast. Je leur ai fait la lecture de Vlad l'Empaleur dans la salle de pitch en faisant les voix, en faisant les premiers détails dark,
ouais, oui,
les premiers détails intéressants. Hey man, à l'époque, c'était pas détails dark. C'était... on avait une chanteuse jazz et qu'un orchestre... Ben, je voulais ça. Moi, je voulais que ce soit une chanteuse jazz et qu'une voix sexy qui fait « Détail dark, détail intéressant. » Et en tout cas, une chose en a mené à une autre. Finalement, Urbania nous a dit « Charles, t'es chanteuse jazz, ça coûte bien trop cher. Les web-séries, si on faisait une web-série genre avec toi en visuel, ça coûterait des milliers de dollars. Ça tente pas de faire un podcast à la place. » Ce à quoi j'ai répondu la phrase désormais célèbre « Ah non, pas un autre style podcast. » Parce qu'on était au moment où j'en sous-écoute commençait bien pogner. Là, tous les humoristes devenaient un petit peu... puis je le dis en tout respect, là, c'est un super concept que celui du podcast de Jazette, mais il y avait beaucoup de ersatz, mettons, de sous-écoute. Puis, je vais non, pas un autre podcast. Ah, non, puis là, finalement, en le faisant, en adaptant le projet en mode audio seulement, j'ai fait « Hey, attends une minute, mes possibilités sont infinies. » Mes possibilités sont infinies et de la même manière que, genre, un humoriste comme François Pérusse va te faire passer des univers que tu vois, que tu imagines les personnages, mais tout est en audio. Les possibilités sont infinies. Puis, au-delà de ça, mon Dieu, ça vient faire un lien avec mon style humoristique en stand-up que j'ai peaufiné pendant 10 ans, où moi, essentiellement, je fais de l'humour de cartoon avec des bonhommes qui font des voix, puis je crée la joke archétypale de Charles Beauchesne. C'est de donner une image tellement précise dans la tête avec les bons mots que tu ne vas pas pouvoir faire autre chose que la voir et t'en amuser. OK, j'ai tous ces outils-là. Le podcast me permet de toutes les faire shiner à leur juste valeur. Et là, j'ai complètement switché mon fusil d'épaule depuis. Je pense que le podcast, c'était la meilleure plateforme pour faire ce que je voulais faire. Et on m'a proposé de faire, les pires moments de l'histoire en TV. On a proposé de faire une version visuelle de ces affaires-là. Il y a eu des plans d'un cartoon à un moment donné. Puis ça n'a jamais abouti. Puis à ce stade-ci, je m'en fous. Ce n'est pas fait. Je ne pense pas que c'est nécessaire que ce soit visuel. De la même manière que, tu sais, François Pérusse, à un moment donné, ils ont sorti genre la série du peuple.
C'était à Télétoon.
C'est animé.
Ouais. C'était pas à Télétoon.
Non?
Non, c'était à TQS à l'époque.
Ouais. Okay.
Exact.
Et je me suis rappelé d'une affaire. Puis, mon Dieu, c'est génial, la série du peuple. Mais en l'écoutant, j'étais comme, ah, c'est cool. Mais j'avais pas tant besoin des images, finalement.
Non, moi, les dessins me gossaient, en fait. J'ai trouvé tellement cheap que ça me turnait off.
Ouais, c'était du 3D.
Ça, c'est le journal. Le 3D, c'est le journal.
Ah ouais, OK.
Mm-hmm. Non, c'était de l'animation. Animation Kebs de la fin des années 90, où on faisait des affaires avec ce qu'on pouvait. Mais c'est ça. Mais au-delà de ça, je me suis rappelé... La règle numéro un des films d'horreur, et ça vaut pour l'humour aussi, c'est toujours plus drôle ce que les gens ont dans la tête que ce que tu pourrais leur montrer. Mm-hmm. Si tu es capable de leur mettre une image dans la tête, eux autres vont se faire rire avec en l'imaginant. Et c'est, y a...
Ouais, puis il n'y a personne qui a pas raison, dans le fond, parce que tu l'imagines de la façon que tu veux, exact, avec l'humour que tu veux. Là,
bingo! Tout le monde a raison. C'est fabuleux. Et je pense que si on parle du succès là, des pires moments, je pense que ce qui est allé chercher les gens initialement dans ce podcast-là, c'est ça. C'est le fait que tu peux toi-même imaginer tes affaires, tu es le propre cinéma de ton... Les anglophones disent « the theater of the mind », le théâtre de l'esprit. Et ça, mon Dieu, c'est comme un donjon et dragon, ma parole. C'est, en tout cas, c'est ça, tout est un cercle, tout est un serpent qui dévore sa propre queue.
comment d'écoute par mois? T'es-tu au courant des chiffres?
Ils me les disent à chaque année, mais je déteste les maths les views. Ils me les disent, là. Ça veut dire quoi, ça? Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Si tu beaucoup, si tu peux. Ils ont l'air de me dire que ça va bien. Ils ont l'air de me dire.
Mais sûrement, parce que ça continue puis ça va bien. Puis t'es content.
Le fait, c'est que ça va bien. Les chiffres, je les connais pas. Uh-huh. Moi, tant qu'il y a du monde dans salle de spectacle après ça, tant qu'il y a du monde qui continue à suivre la série, moi, c'est tout ce qui m'importe.
Et est-ce que le podcast a eu une influence sur ton stand-up? Est-ce qu'il y a plus de gens qui viennent te voir, qui te connaissent plus à cause du podcast?
Dans ce sens-là?
Ben, dans les deux sens, dans le fond.
OK. Je vais commencer par le premier sens, le littéral. Est-ce qu'il y a plus de gens qui viennent me voir? Oui. Et j'ai toujours peur, mon Dieu, ça c'est une bénédiction comme une malédiction, parce que, mon Dieu, mon stand-up, je l'aime, je ne peux faire que ce que je sais faire, mais des fois c'est trop pour certaines personnes. Des fois, je pense que j'ai un humour qui est étroit et que ça ne le fait pas pour plusieurs personnes. Fait que là, j'ai plus que jamais des gens qui viennent m'essayer. Puis là, j'y vois dans le public, là. J'y vois, OK, toi, t'es en train de te faire méga chier. Toi, ça va bien, c'est merveilleux, je vais focusser sur toi. Toi, tu dors à point fermé, merveilleux. Puis 50-50, encore. Ben 50-50, ouais. Non, c'est pas vrai. J'exagère peut-être plus, c'est 45-25, une affaire de même, là. C'est pas le bon calcul, hein. C'est pas ça pantoute, hein. Voilà, ça, puis Donjons et Dragons, le cauchemar. fait que, je te dirais que oui, il y a plus de gens qui viennent, mais je me sens encore en période de transition où les gens qui me découvrent vont découvrir à quel point ils me détestent ou pas. Maintenant, est-ce que ça a eu une influence sur la façon dont je fais du stand-up? Oui, d'une certaine façon, dans le sens que... J'ai toujours fait de beaucoup d'humour de act-out, c'est-à-dire tu décris une situation en mode narration, puis après ça, tu prends le temps de faire une petite scénette qui vient exactement décrire, comme dans les pires moments, finalement, exactement décrire ce que tu viens de dire. Fait que je te dirais que ça a un peu... ça a peaufiné ma façon de faire des scénettes en mode stand-up, qui était peut-être un petit peu plus brouillonne jadis. Là, maintenant, je sais comment faire des act-out. Mais de façon générale, ça reste... ça reste le même humour.
Est-ce que tu as rajouté tes fameuses phrases dans ton spectacle? Moment
détail dark ou détail intéressant? Ouais,
c'est ça, ben, peu importe les...
Oui, ouais. Sauf que maintenant, je le... En tout cas, il s'est passé toutes sortes de bizarreries face à ça. Il y a des fois où je disais... Parce que je dis... naturellement dans la vie, je dis, ah oui, détail intéressant, cette affaire-là, je le fais. Je le fais dans la vie. Pas pour détail dark, mais pour... Puis là, je le faisais des fois, puis là, ah oui, détail intéressant, puis là, je regardais mon cue card, puis là, les gens faisaient comme, il a dit la femme! Il a dit le truc! Okay, ouais. Puis là, je me sens comme la prostituée de Babylone. OK, d'accord, le fun. À un moment donné, j'ai décidé de jouer là-dessus, de faire comme... ah oui, détail intéressant. Puis là, il y avait comme une pause où les gens étaient comme... ah, Chris, il est bien pute, Steve. il a dit l'affaire. Là. Voyons, tabarnak, qu'est-ce qu'il vaut? Fait que là, maintenant, ce que je fais, c'est que je dis... détail intéressant de la manière dont je le dis dans la vie. Puis là, inévitablement, je vois juste du bon le chuchoter dans la salle. Ah, oh, y a-t-il affaire, les amis? Et c'est ça le ratio.
Ah, ben c'est bon.
C'est un bon ratio.
C'est un très bon ratio. Pour ton stand-up, là, tu recommences à faire de la scène, c'est ça? Tu avais un peu arrêté ou.
J'ai pas arrêté de faire de la scène. Bon, évidemment, il y a eu un break pendant le COVID, comme pour tout le monde, où on fait moins d'affaires. Mais. J'ai pris un break de faire des nouvelles affaires. Dans le sens que écrire du nouveau stand-up, ça fait depuis 2019 que je l'ai fait.
Ouais, c'est ça, tantôt, Jack Léventreur, c'est ce que tu présentes ce soir. Tu as dit 2018-2019, tu as commencé l'écriture.
Les pires moments de l'histoire ont pris beaucoup de place dans les dernières années. La COVID a arrêté le stand-up. Moi, j'ai vu un comme. Ah, ouais, OK, cool, j'ai une chance là, de prendre un break là, de stand-up, me concentrer sur les pires moments merveilleux, me concentrer sur mes conférences. Puis là, le monde est revenu à la normale. On a décidé de ressortir mon vieux rafio, comme je l'appelle, mon vieux spectacle de stand-up de 2019 qui s'appelle « Les corbeaux me regardent d'un air bizarre ». Et ça, c'est le meilleur de mes 10 années de marais de la relève, les meilleurs numbers peaufinés, regossés pour que ça fasse du sens dans le monde d'aujourd'hui avec les sensibilités que les gens ont aujourd'hui qui ne sont salement pas les mêmes qu'en 2010. et voilà, en ce moment, c'est ça. Là, je run 3 shows en même temps. Jack l'Éventreur, La Peste Noire et Les Corbeaux me regardent d'un air bizarre. Il en est ainsi depuis 2019. Et je ne sais pas quand ça va s'arrêter.
Tu vas continuer ça
inévitablement. Continuer jusqu'à ce que on a fait un deal avec mon gérant. Jusqu'à ce que les ventes de billets commencent à diminuer de façon suffisamment significative pour que je fasse « OK, I guess qu'à ce stade-ci, tout le monde l'a vu. » Mais ce qui est merveilleux, avec les deux conférences, c'est que je vais les faire jusqu'à ma mort. Ces sujets-là ne se démodent jamais. C'est pas des spectacles qui sont... C'est des cue cards avec de l'impro. Fait que le spectacle est différent à toutes les fois que je le joue. Okay. Puis je peux prendre des breaks. Là, je vais être dû, là, ces deux conférences-là, du moins dans les prochaines années, là, les mettre au fridge pendant un petit 2-3 ans, une affaire de même, me permettre de faire d'autres projets, peut-être même faire une autre conférence. Ouais, je voulais faire une trilogie avec cette affaire-là. Je voulais faire... Charles Beauchesne parle des nazis pendant 60 minutes. Le dernier de 3.
La fiche pourrait être écœurante, je l'imagine vraiment bien la fiche.
Moi, j'ai des cauchemars de l'affiche. Encore comment visuellement je vais vendre ça au monde. Mais c'est ça. L'objectif, c'est qu'éventuellement, je vais me ramasser avec ma trilogie de conférences qu'on run à l'infini en prenant des breaks. Ça me donne le temps d'écrire du nouveau stand-up, ce que je suis dû pour faire, mon Dieu, depuis quelques temps déjà. Ça me permet de faire les autres projets. J'aime ça faire des affaires différentes. J'ai une autre projet de podcast là, que ça me tente de faire, qui est sur le back burner depuis un an et demi facile. Je veux faire un radio-roman de détective privé à Hawaï. une parodie de Magnum P.I. Et là, on a commencé cette affaire-là. On a fait un test au Zoo Fest l'été passé, une lecture devant le public de notre épisode pilote. Mais là, j'adore ce projet-là. J'ai juste envie de le faire. Et je pense que vous allez l'aimer, vous, le public. Trustez-moi sur celle-là. On se fait bien rire dans les salles de... Si vous aimez les scènes nettes des pires moments de l'histoire, ce que j'offrirais avec cette affaire-là, c'est un des épisodes de 30 minutes de juste mes dialogues, mes personnages, avec des amis comédiens, humoristes qui viennent faire des voix. Je chéris cette affaire-là, mais là, j'ai pas le temps de le faire. Puis,
c'est ton côté complétionniste, il capote en arrière.
Oui, voilà.
Mais là, j'ai une question dans la tête. Tu penses pas que Warhammer va te nuire pour faire ton prochain scénario?
Non. non, parce qu'il y a une affaire. Il y a une affaire aussi que j'ai appris avec toutes ces années, c'est que le stand-up, ce n'est pas un hobby, c'est de la job. Le podcast, ce n'est pas un hobby, c'est de la job. Les spectacles, ce ne sont pas des hobbies, c'est de la... J'y tire du plaisir. J'adore, puis ça, c'est le bon vieux, genre, faites un métier que vous aimez, vous ne travaillerez jamais un jour de votre vie, comme le disait Mathusalem. Et cool, sauf que... non, c'est pas Mathusalem Bantou qui disait ça, c'est genre un... Confucius. Confucius qui disait ça? Ah, nice, OK, mais merci, nerd en arrière, qui a toutes les réponses. je m'en allais où avec ça, moi? Excusez-moi, j'ai perdu le fil.
Mais tu disais que c'est pas des hobbies, c'est du travail.
C'est pas des hobbies, c'est ça. Et j'ai besoin de hobbies dans la vie. J'ai besoin de vacances. J'ai besoin de fin de semaine avec ma blonde où on fume du weed puis qu'on écoute des animés japonais. J'ai besoin de... Puis c'est des breaks que je me suis pas offert souvent dans les 10 dernières années parce que fallait percer. Fallait faire de l'argent. Puis là c'est le fun. J'ai la chance, mon Dieu, le privilège incroyable depuis 2019 de vivre suffisamment confortablement du podcast que je peux me faire des semaines régulières de 9 à 5 d'individus normal avec des fins de semaine. Puis oui, non de peindre des squelettes robots égyptiens à la fin de la journée, là, c'est nécessaire pour garder ma santé mentale.
OK, parfait.
Le moment présent, parce que sinon, je suis juste en train de spinner sur qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qu'il faut que je fasse demain, mm-hmm. qu'est-ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait hier, je l'ai-tu bien fait, je me suis trouvé dégueulasse de le faire, j'angoisse comme jamais sur cette affaire-là, et tout ça est une espèce de maelstrom de fantômes. Qui font dans ma tête et non des squelettes robots égyptiens.
Ça y prend ça. On approche de la fin du podcast. Quand on a un beau public comme ça, souvent on aime se retourner vers le public. Avez-vous des questions? Y a-t-il des gens qui ont des questions pour Charles?
Oui.
Charles, je vais juste la répéter au public qui écoute. Dans le fond, la question, c'était qu'avec tout le stock que tu as coupé dans tes épisodes, ils te demandaient, dans le fond, est-ce que tu as déjà pensé faire des director's cuts, c'est-à-dire des épisodes de tout ce qui a été effacé ou des choses comme ça, avec les pires moments de l'histoire?
La vérité, c'est qu'il y a déjà un director's cut des pires moments de l'histoire. Là, on est diffusé simultanément sur audio et sur toutes les autres plateformes de l'univers. Si vous l'écoutez sur audio, on est à Radio-Canada. Et là, c'est beau, ils me font confiance, mais à une époque où ils me faisaient un peu moins confiance. J'utilise un bagout parlé souvent avec des anglicismes, des québécismes, des fait qu'ils sont pointilleux là-dessus. Ils me demandent maintenant j'ai des quotas d'anglicismes, j'ai des quotas de gros mots. C'est correct, c'est des deals qu'il faut faire avec eux autres pour que ça fonctionne. Au début ces canailles là ils me coupaient des act out des fois, mais c'est trop pornographique. Là fallait que je m'ostine avec eux autres que je fasse non, c'est bon, je vais garder le même esprit. Je vais vous remplacer ce act-out-là par quelque chose qui va dire la même affaire, mais qui va être dans votre palette de goût radio-canadienne. Merci pour la plateforme, ça fait plaisir. Mais ça fait que c'est ça. Les épisodes sur Radio-Canada, c'est ceux que j'appelle la version censurée. La version pour... Puis censurée, mon Dieu! pour les écoles, mettons, avec moins de gros mots. Si vous voulez le director's cut, la façon dont moi je voulais que les épisodes sortent, c'est sur toutes les autres plateformes imaginables. Mais les affaires qui sont coupées, ça, c'est là que je réalise que je travaille avec des gens qui sont des bons coéquipiers et qui ont le bonheur du projet à cœur. Ils ne coupent que des mauvaises affaires. Ça s'est pas rendu dans le podcast, c'est que, premièrement, ça aurait été trop long. C'était peut-être de la redite. C'était peut-être de l'information trop floue dont on se fout. Peut-être que c'était un gag qui n'aurait jamais passé et qui m'aurait attiré des problèmes, peu importe la plateforme. Fait que, dites-vous que les épisodes tels que je les sors en tant que je psychorigide, complétionniste, perfectionniste, c'est ce que je voulais que ce soit.
Y a-tu eu une information, Manic, tu t'es quasiment battu puis que c'est jamais rendu, que tu l'as absolument intégré?
Jamais, parce que je suis bon joueur. Je suis bon joueur avec eux autres, puis je suis toujours... OK, d'accord. Vous aimez pas le wording, vous aimez pas la façon dont j'ai les mots que j'ai utilisés pour faire une joke. Très bien, je vais faire exactement le même chemin en utilisant tous les termes radio-canadiens que vous aimez. J'ai des outils, du langage, j'en ai une troque puis une barge. Très bien, je vais te rewarder cette affaire-là de façon à ce que ça marche et que la même information et grosso modo la même joke passe. Fait que, non, c'est du... C'est un autre plaisir, c'est un autre puzzle, c'est un autre cube Rubik, mais on arrive toujours à bout de cette affaire-là.
Est-ce qu'on avait une autre question pour Charles? Oui. Est-ce que c'est toi qui fais toutes les jokes dans ton podcast?
Qu'est-ce que tu veux dire dans le sens que c'est moi qui écris toutes les jokes dans le podcast? Non, 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 non. Non, puis Dieu merci, non. Aïe, tabarne, mon air sciatique. OK. On travaille en trio sur cette affaire-là avec François Legrandpré puis Audrey Rousseau, comme je l'expliquais, et la façon dont on fonctionne, ça s'en vient là, d'ailleurs pour moi. Ah, oh, man, ça s'en vient. On s'assoit en début de saison, on jase de tous les épisodes qu'on aimerait faire, on fait une sélection de 5 et on se les divise. Généralement, j'en prends 2, il y a chacun, François et Audrey en prennent un chacun et ils en prennent un 5e qu'ils font à 2. Et c'est généralement la raison pour laquelle on a des palmarès en fin de saison, c'est parce que c'est des épisodes qui sont... plein de petites histoires, donc facile à écrire à 2. On a juste à aligner les blocs Lego ensemble. Puis là, la façon dont on fonctionne, c'est qu'on écrit ce qu'on appelle des V1, des versions 1 du texte, chacun de notre bord. Là, j'arrive, on se fait un meeting. Mettons que c'est moi qui ai écrit la première V1 qu'on est prêt à travailler. Je fais « OK, on lit le texte au complet, on annote, on commence tout de suite à rayer des affaires. Après ça, je mets l'épisode entre les mains ou de François ou de Audrey qui va retravailler une version en changeant des affaires, en ajoutant des jokes, en rewordant des affaires qui n'étaient pas claires, qui va ensuite le passer à la troisième personne qui va refaire le même travail dessus. Et là, on se refait un autre meeting par-dessus tout ça où on consolide toutes les patentes à gosse et là, on s'ostine pendant des siècles. Et éventuellement, à la fin, on se ramasse avec une version de laquelle on est fier. On envoie ça aux instances supérieures, à Dieu, comme on dit, Radio-Canada, la plupart du temps. Là, eux autres, ils nous reviennent, sont pas contents des affaires, il y a des choses qui sont pas claires, etc. On refait une autre couche de lac par-dessus. Puis généralement, après toutes ces étapes-là, on est prêt à enregistrer.
Tu peux penser que souvent dans tes podcasts, t'envoies des flèches aux historiens qui t'écrivent pour des... C'est-tu des choses qui sont vraies ou c'est juste c'est un clin d'œil qui s'amuse?
C'est un réflexe de protection de ma part. parce que j'aime les historiens. J'adore les historiens. Je trouve qu'ils font un travail fascinant qui nécessite, mon Dieu, juste le fuel, de la passion brute. Mm-hmm. Mais c'est aussi des ostineux notoires sur des détails. J'ai déjà eu des cas. Moi, j'aime le Moyen-Âge dans la vie. Il n'y a rien qui me fait plus plaisir que le Moyen-Âge. Et il n'y a pas une catégorie d'humains sur Terre qui m'énerve plus que les historiens médiévistes parce qu'ils aiment s'ostiner sur des détails. Et moi, j'ai toujours peur, sachant ça, que quand je produis des podcasts où, tu sais, on prend des libertés de synthèse à des fins narratives, que là, il y a du monde qui vient de me chicaner, me faire « c'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé, là, t'as fait une trop grosse synthèse, là, c'est pas tout à fait ça, j'ai que de me faire taper sur les doigts », et ça n'arrive jamais. Les historiens, je fais des jokes, là, mais les historiens, c'est souvent le meilleur public, ceux qui ont la meilleure appréciation de ce que je fais. Après ça, eux autres, ils viennent nerder là, par la suite. « Ah ouais, t'aurais pu parler de cette affaire-là, ça aurait été génial. » Oui, 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 effectivement, je le garde en mémoire. On va mettre ça dans un autre épisode par la suite. Mais mm-hmm. Fait que non, les historiens sont en fin de compte des amis. Et comme avec les gens que t'aimes, on se lance des cracks entre nous autres en toute bienveillance.
Est-ce qu'on a une autre question pour Charles dans le public?
Non, je pense que j'ai dit toutes les affaires du monde.
Répondu
toutes ces questions. Mathias? Est-ce que les pires moments de l'histoire ont sorti du Québec?
Oui. Oui, les pires moments de l'histoire ont sorti du Québec. J'ai des Français, surtout, qui... Et mon Dieu, je suis le premier surpris. C'est quand même assez populaire. C'est quand même assez populaire en France. J'ai des Français qui m'écrivent encore régulièrement, qui commentent sur mes affaires, qui me demandent quand est-ce que je viens faire mes shows à Paris. Puis je sais pas si vous allez aimer ça, guys. Je sais que vous allez me trouver charmant avec mon accent, là, mais... Mon accent, qu'est-ce que je veux dire? Mon français normatif qui s'apparente énormément au vôtre, d'ailleurs. Ça fonctionne. Il y a du reach en France. J'ai fait des interviews avec des collaborateurs français. Il y a des Belges, de la francophonie, des Belges, des Suisses, des Marocains. Puis la joke, c'est qu'à un moment donné, on a pogné un échantillon public en Lettonie. Puis ça a été le gros travail des détectives privés, à savoir c'est qui le fan letton, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il y a des déploiements militaires vieux Québécois en Lettonie. Puis j'ai rencontré l'auditeur letton la semaine dernière. À Gatineau. Il est venu me voir après le show. Là. Il était comme, hey, ouais, by the way, le letton, c'est moi. Ah ben, c'est un crime. Je suis content de vous rencontrer enfin, mon brave. Une affaire classée sur celle-là.
Mais tu sais, tes deux spectacles conférences, ça me semble que ça s'exporte très bien, ça, justement.
Oui, sauf que j'ai peur, j'ai peur que les Français soient encore plus pointilleux. Les raccourcis historiques que je prends, parce que c'est leur histoire, c'est l'Europe. C'est la vérité, c'est qu'ils ne connaissent pas si bien que ça, finalement. Mais on dirait que j'ai cette espèce de gêne-là d'arriver là, puis de dire « Laissez-moi vous en apprendre plus sur l'Europe! » J'ai tout droit sorti « Canaillé français! » Fait que un jour peut-être, mais je te dirais que je vais les faire en... Les conférences, du moins, je vais les faire en France quand... Je vais les reniper là, dans les prochaines années. Là. J'ai besoin de les regosser puis m'assurer que ce soit... Puis, tu sais, peut-être que le travail, ça va être rien là-dessus, mais il va y avoir un travail d'adaptation à faire si je décide de faire ces affaires-là en France, puis je suis pas là.
Surtout si tu fais des références au Québec, ça va être plus difficile.
Oui. Ça va, il n'y en a pas tant que ça quand même, mais c'est ça. Il va falloir que je fasse du travail comme ça. Il va falloir que je... Il y a des mots qu'il va falloir que j'apprenne ces spectacles-là de façon encore plus normative que je les livre. Fait que c'est... Il y a une job à faire que j'ai pas le temps de faire pour l'instant, mais... Mm-hmm. Un jour.
Mais il y a des sujets un peu tabous aussi en France historique. Tu sais, mettons, Maréchal Pétain, c'est un sujet qu'on ne parle pas beaucoup en France. Là. On évite le sujet, mais c'est...
C'est jasé de la collaboration maintenant. Et ça, c'est... Mais en fait, c'est drôle, comme pour toutes les affaires qui a trait au Troisième Reich, il y a une... sauf chez les Américains, il y a une honte.
Oui, c'est ça, oui.
Il y a une honte face aux événements de ces années-là. Les Français ont profondément honte d'avoir été des collabos, d'avoir eu parmi eux des gens qui ont collaboré. Les Allemands sont hantés depuis les années 40 par une honte viscérale qui est tout ce qui a un rapport au Troisième Reich est illégal en Allemagne. Ils ne niaisent pas avec ça. Tu peux faire de la prison si tu fais une joke au mauvais endroit. Je vous déconseille de faire ça d'ailleurs. Et fait que je pourrais, tu sais, j'ai pas envie d'être le gars sur son grand cheval de supériorité morale qui vient faire comme moi. Je me souviens que dans les années 40, j'étais ta gueule, Charles, ta gueule.
C'est nous qui vous avons sauvé le cul. Maintenant, je vais vous dire comment ça marchait.
Partiellement sauvé le cul, mais la vérité, c'est que tout le monde s'est sauvé le cul soi-même pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Est-ce qu'on avait une dernière question? C'est terminé?
mm-hmm.
Je vais juste répéter la question vite. Parce que les gens à l'audio ne l'entendront pas. On a un nerd de Donjon Dragon dans la salle. Il, dans le fond, c'est des émissions, ça, de Donjon Dragon? Fait que dans le fond, ce qu'il te demandait, c'est est-ce qu'il y a d'autres émissions de Donjon Dragon en podcast qui vont sortir avec toi?
Ça fait longtemps que j'en ai fait une. Ça fait longtemps qu'on m'a invité à en faire une aussi. Puis je pense que c'est juste une question de... Je pense qu'il y a du monde qui n'ose pas m'inviter. Je sais pas, mes affaires vont bien, les gens sont timides ou peu importe. Mais je dis très souvent oui. Sauf que... J'ai pas le temps de m'investir outre que genre un ou deux playthroughs. Fait qu'il faut que ce soit des petites campagnes, des petits genre Call of Cthulhu là, où on devient fou après 45 minutes, puis tout le monde est content de cette affaire-là. Mais j'aime ça. J'aime ça, mais j'ai redécouvert récemment le plaisir de faire des jeux de rôle avec mes chums dans un sous-sol avec un bol de Funyuns où on n'a pas, où j'ai pas, je suis pas performatif dans mes affaires, j'ai le droit d'être mauvais. Puis ça, mon Dieu, on dirait que c'est le plus beau répit que la vie peut me donner, avoir le droit d'être mauvais sans conséquences. Parce que je suis perfectionniste, mais je suis un humain et il y a des jours où je suis pas bon. Il y a des jours où je suis meilleur. Puis c'est d'ailleurs on va refaire, on check ça, je te wrap up ça avec le spectacle. Même chose pour les conférences. Le show est différent à toutes les fois. Il y a des fois où ça connecte avec le public. On va passer une super soirée. J'ai de l'artillerie. J'ai toutes sortes de choses pour vous amuser. Il y a des fois où... soit je suis moins dedans, soit je suis arrivé peut-être, je sais pas, avec le mauvais mindset ou quoi que ce soit, et humoristiquement, ça concorde moins, c'est pas grave. Moi, je prends toujours le pari dans ces conférences-là. Si c'est pas drôle, au moins c'est intéressant. C'est fait que je m'en sors toujours un petit peu de cette manière-là, mais moi, pour arriver à la perfection, ça me prend 45 000 étapes où je suis à chier. Et il faut me laisser ces étapes-là dans le processus. Sinon, mais là, c'est ça, là, ce qui est le fun, c'est que... Je dis ça, je te parle du spectacle, comme si genre 50 % des fois, c'était pas bon. Au début, il y avait des soirées où ça connectait moins. Mais là, je dirais, là, ça fait 4 ans là, que j'ai fait. Là, on est... Je connais mes affaires. On est en bonne main. Ça va bien. Tout le monde est content. Vous m'avez donné le droit d'être mauvais pour arriver à quelque chose qui... Un bateau qui flotte, en fin de compte. Ce que vous allez d'ailleurs voir nul autre que ce soir dans le cadre de Charles Beauchesne parle de Jack l'Éventreur pendant 60 minutes.
Charles Verchaine.
Charles Verchaine, c'est un nouveau
Verchaine. Mon nom de famille, puis celui de Deschamps, il faut toujours. Charles Beauchesne, merci beaucoup. Juste avant de faire venir cette émission-là, je remercie aussi notre partenaire, Onibi, qui est toujours là avec nous. Onibi, parce que c'est.
Bonsoir! Orange sanguinicieux.
Merci beaucoup, Charles. Merci à vous.
Merci.